Bonjour et bienvenue en ce mardi 22 mai 2018. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous. Bonjour Jean-Sébastien, La Liberté.
Bon début de semaine, Hélène.
En forme?
Mais bien sûr, avec le plein de soleil qu'on a fait en fin de semaine, oui.
C'est vrai,
en
hein?
En grande forme.
Vitamine D. Et semaine de 4 jours, ça se prend bien quand même?
Ça se prend très bien aussi.
22 mai, on a passé par-dessus les éphémérides du 21, mais que voulez-vous? On pourra se reprendre l'année prochaine, peut-être?
Peut-être.
Oui.
Probablement, oui.
Oui, oui. Alors, le 22.
Mais on se concentre sur le 22. Ouais. 22 mai, journée mondiale de la biodiversité. Également, 22 mai, souhaitons un joyeux anniversaire à Charles Aznavour, né en 1924, ce qui lui fait donc 94 ans aujourd'hui, l'auteur, compositeur, interprète français. Également, anniversaire de naissance de Georges Rémy, le dessinateur belge Hergé, le père de Tintin, qui est né en 1907, mais qui s'est éteint en 1983. Également, en 1859, naissance de l'écrivain écossais Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Et en 1813, le compositeur allemand Richard Wagner, décès en 1885 de l'écrivain français Victor Hugo. Également, un 22 mai dans l'histoire, en 1542, Paul III convoque le Concile de Trente. 1906, les frères Wright obtiennent un brevet pour leur invention, l'aéroplane. 1939, signature par Hitler et Mussolini du Pacte d'Acier, alliance politique et militaire qui engage l'Allemagne et l'Italie pour une période de 10 ans. 1956, inauguration du service télégraphique express entre Montréal et Paris. En 1994, 61 000 admirateurs, 61 000 fans s'entassent au Stade olympique de Montréal pour assister au premier concert de Pink Floyd donné ici même à Montréal dans le cadre de la tournée Division Bell Tour. 61 000 personnes quand même, ça devait être tout un spectacle.
Je comprends.
En 2004, l'Américain Michael Moore reçoit la Palme d'Or du 57e Festival de Cannes pour son documentaire explosif Fahrenheit 9/11. En 2008, dans son rapport final, la commission Bouchard-Taylor propose de n'interdire le port de signes religieux qu'aux agents de l'État qui incarnent l'autorité. Avec les récentes discussions sur la possible présence de signes religieux pour les policiers, on peut voir que c'est encore un dossier quand même assez chaud dans l'actualité et dans la société.
On n'a pas fini.
Toujours en 2008, Céline Dion est faite chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur par le président français Nicolas Sarkozy. En 2010, 158 personnes périssent dans l'accident d'un Boeing d'Air India Express en provenance de Dubaï, dans le sud de l'Inde. En 2012, plusieurs choses en 2012, début des audiences d'une autre commission d'enquête, celle-ci sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction au Québec, commission qu'on connaît sous le patronyme de Commission Charbonneau, présidée par la juge, France Charbonneau. Toujours en 2012, grande manifestation à Montréal qui marque les 100 jours de la grève étudiante. Le printemps érable, c'était en 2012, il y a donc 6 ans déjà. Et toujours en 2012, petite information, chose que j'ai appris ce matin, peut-être l'apprendrez-vous vous aussi, création du terme français « fobbing ». Fobbing, P-H-U-B-B-I-N-G.
Ça me dit absolument rien.
qui se réfère au comportement antisocial des connected people, une autre expression française. Fobbing, donc, qui est une contraction de deux mots, phone, donc pour le PH, et snobbing. Donc, ça fait du fobbing. Donc, c'est les gens qui télésnobent, on pourrait dire ça comme ça, les gens qui télésnobent leur entourage. Donc, vous savez, ce phénomène social, quand plusieurs personnes sont ensemble et que certains ne sont que sur leur téléphone cellulaire et ignorent le monde, depuis 6 ans, une expression pour se télésnobber.
Ah, là, maintenant, c'est en français.
Ben, c'est en français de France.
Télésnobber.
Télésnobber, je ne sais pas si c'est accepté dans le dictionnaire, mais c'est quand même une belle expression, je trouve.
Oui.
Plus simple à se rappeler aussi que fobbing. En 2017, finalement, c'était donc il y a un an aujourd'hui, attentat terroriste à Manchester après le concert à la Manchester Arena de la chanteuse Ariana Grande.
Déjà un an?
Déjà un an, ça passe vite, oui.
Merci, Jean-Sébastien. À la une de la presse à Toronto, la presse a accompagné une équipe d'ambulanciers des airs à Toronto prête à décoller à tout moment. Et si le Québec suivait le modèle ontarien? Incursion dans un univers où chaque minute compte, voler pour sauver des vies. La réalité virtuelle contre-attaque. La chronique de Nathalie Petrovski, parlez-vous le Netflix? Pause santé malade, point de suspension sans l'être. La peur d'être malade les empêche de vivre au point parfois de leur donner envie de mourir. Qualité des services de garde. Près du quart des 300 000 enfants inscrits dans un service de garde reconnu au Québec fréquentent un milieu de piètre qualité selon une compilation de l'Observatoire des tout-petits qui sera officiellement rendue publique ce matin. C'est dans les garderies non subventionnées que la situation est la moins reluisante alors que les centres de la petite enfance, CPE, s'en tirent le mieux. Survol, c'est Gabrielle Duchesne qui signe l'article « La qualité des services de garde » Donc, garderie en milieu familial, qualité bonne ou excellente 19 % faible ou très faible 21 % qualité acceptable 60 % Maintenant, garderie subventionnée, qualité bonne ou excellente 10 % qualité faible ou très faible 33 % acceptable 57 % Centre de la petite enfance, qualité bonne ou excellente 56 % faible ou très faible 3 % acceptable 41 % Garderie non subventionnée, qualité bonne ou excellente 9 % faible ou très faible 39 % acceptable 52 % Le résultat qui domine est la mention « acceptable », affirme Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. On n'est pas dans l'excellence, il y a des enjeux de qualité dans tous les milieux. Il ne faut pas que les parents pensent qu'il n'y a pas de bon milieu, mais disons que la qualité est inégale. Il faudrait continuer d'évaluer. Les études les plus récentes remontent à 2014 et soutenir les milieux pour qu'ils puissent s'améliorer. Au Québec, la majorité des bambins qui fréquentent un service de garde reconnu par le ministère de la Famille sont soit dans un CPE, 32 % soit dans une garderie en milieu familial, 31 % 22 % fréquentent des garderies non subventionnées et 16 % sont en garderie subventionnée. Qu'est-ce qui cloche? Les lieux. La qualité des lieux où se font garder les enfants n'est jugée bonne que dans les CPE. Les activités. Seuls les enfants de moins de 18 mois gardés dans les CPE ont des activités de bonne qualité. Les interactions avec les éducatrices. Les interactions enfants-éducatrices sont jugées acceptables partout, sauf dans les pouponnières des CPE où elles sont bonnes. La valorisation du jeu, qualifiée de faible qualité pratiquement partout, tire la moyenne vers le bas. Un bon milieu, c'est un milieu qui est bienveillant et pas stressant. Il y a une variété de livres, des repas sains, de bonnes mesures d'hygiène. Un endroit où les parents s'impliquent, où les enfants peuvent faire des choix, explique Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre ont pourtant plaidé coupables à des dizaines de chefs d'accusation en avril. Deux leaders de Lova Ganza sollicitent toujours des fonds illégalement. Des leaders du projet Lova Ganza, qui auraient recueilli des millions auprès de petits épargnants, ont continué de solliciter illégalement de l'argent auprès d'investisseurs pour leur projet de film à grand déploiement. Moins de deux semaines après avoir reconnu leur culpabilité à des accusations portées par l'Autorité des marchés financiers pour le même type de sollicitation. Au cours d'une conférence téléphonique tenue le 25 avril, Marc-Éric Fortin a expliqué à des investisseurs potentiels qu'il avait besoin de 75 000 $ en leur promettant un rendement exceptionnel qui leur serait payé à la fin du mois de mai. On offre 15 à 30 % sur ce prêt qu'ils peuvent nous faire avec un rendement que nulle part ailleurs ils peuvent trouver. En 60 jours, réaliser ce pourcentage de profit, très intéressant, peut-on lire dans un compte-rendu de cet appel envoyé aux investisseurs que la presse a obtenu. Marc-Éric Fortin suggère à ses interlocuteurs de ne pas payer les sommes qu'ils doivent au fisc, mais d'investir plutôt cet argent dans son projet. Il suggère aussi aux investisseurs de retirer des fonds de leur REER et d'emprunter à des institutions financières ou à des proches pour investir ces sommes. Marc-Éric Fortin, Karine Lamarre et leurs représentants n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue de la presse. Le 9 avril, Marc-Éric Fortin et sa conjointe Karine Lamarre, les deux principaux collecteurs de fonds de Lovaganza, ont plaidé coupables à respectivement 52 et 27 chefs d'accusation pour avoir contrevenu aux lois encadrant les investissements à la suite d'accusations portées par l'AMF. Deux autres accusés, Mathieu Carignan et Louise Larente, ont aussi plaidé coupables et reçu des amendes. Marc-Éric Fortin et Karine Lamarre pourraient quant à eux écoper de peines d'emprisonnement. Les plaidoiries, dis-je bien sur la peine, se tiendront en septembre 2018. Les têtes dirigeantes de Lovaganza, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier, identifiés comme producteurs, réalisateurs et scénaristes, font aussi l'objet d'accusations de l'AMF dans cette affaire et auront un procès séparé dans les prochains mois. Ils voyagent à travers le monde depuis plusieurs années et seraient occupés à faire du repérage et des enregistrements pour le projet de film. Les victimes demandent à être indemnisées pour les pertes subies en raison des fautes des leaders de Lovaganza. Au moment du dépôt des accusations par l'AMF, l'enquête de l'organisme avait permis de comptabiliser 2,7 millions recueillis auprès de 140 épargnants et d'une dizaine d'entreprises. Exclusif, craignant que son nouveau régime d'évaluation environnementale s'avère trop complexe, le gouvernement Couillard fait appel à deux vétérans de la fonction publique pour faire atterrir cette importante réforme. La ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, confiera aujourd'hui un mandat spécial à Suzanne Giguère et à Jean Pronovo. Ces deux mandarins au long parcours dans la fonction publique seront chargés de la conseiller sur le cadre réglementaire qui donnera suite à la refonte de la loi sur la qualité de l'environnement. Le fait saillant de la réforme est l'ajout d'un test climat dans le processus d'examen des projets. Colombie, 25 000, le nombre de personnes qui ont été évacuées autour d'un barrage hydroélectrique en construction dans le nord-ouest de la Colombie, dont une rupture menacerait quelques 130 000 habitants. Des résidents opposés au projet et soutenus par le mouvement écologiste Rios Vivos ont réclamé des abris et une aide humanitaire décente de la part des autorités. Une ancienne ingénieure d'Uber a porté plainte hier contre l'entreprise pour discrimination et harcèlement sexuel, accusant notamment d'inertie le département des ressources humaines du service de réservation de voitures avec chauffeur. C'est la première plainte contre Uber depuis l'annonce le 15 mai d'une nouvelle politique dite de transparence par rapport aux discriminations et agressions sexuelles après les scandales ayant terni l'image du groupe et conduit au départ de son patron et fondateur Travis Kalanick. Dans sa plainte déposée devant un tribunal de San Francisco, Edgrind Avendano, qui a travaillé chez Uber de 2014 à 2017, estime n'avoir ni été promue ni perçue d'augmentation salariale parce qu'elle a osé briser la loi du silence en dénonçant les discriminations et le harcèlement sexuel à l'encontre des femmes au sein de l'entreprise. Un gouvernement péquiste se donnerait comme objectif dans un premier mandat d'attirer un immigrant sur quatre en région. S'il forme la majorité après les élections du 1er octobre, le Parti québécois entend ainsi inverser la tendance actuelle qui veut que 90 % des néo-québécois s'installent dans la région métropolitaine. Selon les informations obtenues par la presse canadienne, le PQ souhaite ainsi accorder davantage de points dans la grille de sélection des travailleurs qualifiés à une offre d'emploi validée en région. Le PQ élargirait également le programme « Un emploi en sol québécois » piloté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Une conférence de presse est prévue aujourd'hui pour faire l'annonce de ces nouvelles propositions en matière d'immigration.
Est-ce qu'on peut... c'est juste utiliser. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des basses, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavire. Les amours se rencontrent enfin, alors qu'on me voit souffrir. Je rêve, je m'envole.
Sous la tension, t'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson. Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose. Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop. Ok, j'ai pris l'appel et puis après, crois-moi, je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre. L'ennui des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux, mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là. Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella. Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer. Assez, two glasses for the moonshine. Sunglasses for the moonshine. Les grands classiques, on est sous le charme. And baby, that's all I need.
Nouvel extrait de l'album En cas de tempête, ce jardin sera fermé. C'était Cœur de pirate en duo avec Loud et la pièce Dans la nuit.
En une du devoir du 22 mai 2018, bienvenue dans l'école à la carte, l'école publique de quartier confrontée à l'émergence de modèles particuliers. Venezuela, Maduro réélu dans la disgrâce. Le Canada et 13 autres pays refusent de reconnaître le résultat du scrutin présidentiel. L'hostie show, point de bascule, retour sur les 50 ans de ce spectacle québécois mythique et révolutionnaire. Réunis au Katsu, Mouf, Yvon Deschamps, Robert Charlebois et Louise Forestier évoquent leur happening théâtral psychédélique et mythique, choc des souvenirs variables, folie intacte. Architecture, les Autochtones aspirent à des bâtiments à leur image. Laboratoire italien, une chronique de François Brousseau. Santé féminine au secours des parias d'un mal invisible. Sécurité routière, des rues où chaque usager trouve sa place. Claudine Guilbeault et son mari avaient en tête une école idéale pour leurs trois garçons. Ils ne la trouvaient pas. Ils ont même envisagé de déménager dans un autre pays. Après une bonne réflexion, ils ont décidé de concrétiser une idée folle, fonder leur propre école. En 2011, Mme Guilbeault a abandonné son poste de chercheuse en microbiologie de l'Hôpital général de Montréal pour devenir directrice d'une école primaire, son école. Le couple a fait construire une école et en est devenu propriétaire. Quand elle a ouvert son école, l'école Vision de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a 7 ans, elle était loin de se douter que le projet prendrait une telle ampleur. Après tout, les parents qui envoient leurs enfants à l'école Vision doivent payer plus de 8 000 $ par année. Cette école privée n'est pas subventionnée. La première année, l'école accueillait 29 élèves. Le bâtiment neuf, situé dans un nouveau quartier, accueille désormais 215 enfants du préscolaire et du primaire. Un agrandissement est prévu pour l'an prochain. L'école Vision fait partie d'un réseau de 23 établissements privés dotés d'un programme qui n'existe dans aucune école publique. L'enseignement se fait en trois langues, anglais, français et espagnol. Il s'agit d'une école de langue reconnue par les ministères de l'Éducation et de la Famille. L'école Vision enseigne à la fois l'anglais et le français en tant que langue maternelle, en plus de l'espagnol comme troisième langue, c'est sa particularité. On ne veut pas être une école passerelle, au contraire, dit Claudine Guilbeault. On n'enseigne pas l'anglais pour venir surpasser le français. Nos élèves ont d'excellentes notes en français aux examens du ministère en quatrième et en sixième année. Claudine Guilbeault estime essentiel que le système fasse de la place aux solutions qui ne cadrent pas dans l'école publique traditionnelle. À un peu plus de quatre mois du scrutin au Québec, le directeur général des élections, DGE, invite tous les électeurs québécois à vérifier dès maintenant qu'ils sont bien inscrits sur la liste. Par voie de communiqué, Pierre Ride a annoncé que cette démarche peut désormais se faire en ligne sur une nouvelle plateforme Web à l'adresse www.élections.québec. M. Ride rappelle aux électeurs d'effectuer les démarches dès que possible, puisqu'il sera impossible le jour du scrutin, de s'inscrire sur la liste électorale ou encore d'effectuer un changement d'adresse. Cette plateforme Web vise également à sensibiliser les électeurs québécois à l'importance de se déplacer le 1er octobre prochain pour exercer leur droit de vote. On y retrouve également des informations sur le mode de scrutin et sur la manière de s'informer adéquatement. Des Canadiens toujours coincés à Cuba, quatre jours après l'écrasement d'un avion près de la Havane qui a coûté la vie à 111 personnes, environ 1500 Canadiens sont toujours coincés sur l'île cubaine. De nombreux touristes québécois en vacances à Cuba ont vu leur vol de retour annulé depuis cette tragédie et lundi soir, ils ne savaient toujours pas quand ils pourraient rentrer au pays. Parmi ces 1500 Canadiens figurent de nombreux anthropologues qui participaient à un congrès international organisée par la Société canadienne d'anthropologie, CASCA, à l'Université de Oriente à San Diego de Cuba. Ce congrès réunissait 500 anthropologues, dont 70 participants cubains et 425 membres de la CASCA, provenant de 25 pays. Après l'accident qui est survenu vendredi midi, tous les vols intérieurs et internationaux de la compagnie aérienne cubaine Cubana de Aviation ont été annulés. Hier soir, les anthropologues ont appris qu'ils pourraient monter à bord d'un avion de Cubana qui les conduira à Toronto. L'agence de voyage Caribé Sol s'occupera ensuite de ceux qui doivent rejoindre d'autres villes canadiennes, dont Montréal. L'appareil qui s'est abîmé dans une zone de culture peu après avoir décollé de l'aéroport international de La Havane avait été loué, incluant les services d'équipage par Cubana de Aviation à la compagnie de vol nolisée mexicaine Global Air, également connu sous le nom de Aerolíneas Damoges. Il s'agissait d'un Boeing 737 construit en 1979 et dont le dernier entretien avait été effectué en novembre 2017. Selon l'Associated Press, Aerolíneas Damoges avait fait l'objet de deux plaintes sérieuses au cours des dernières années. Notamment, l'avion qui s'est écrasé avait été interdit de voler dans l'espace aérien de la Guyane, quand les autorités de ce pays ont découvert que l'équipage avait permis une dangereuse surcharge de bagages sur des vols à destination de Cuba. Les autorités fédérales décrètent la fermeture de plusieurs zones de pêche dans le golfe du Saint-Laurent en raison de la présence de baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce menacée. Pêche et Océan Canada indiquent que deux baleines noires de l'Atlantique Nord ont été signalées au large des côtes du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement fédéral a donc décidé de mettre en place des fermetures de pêche pour certaines régions. La pêche aux crabes, des neiges et la pêche aux homards sont notamment visées par cette fermeture. Tous les engins de pêche devront avoir été retirés à ce moment. Le gouvernement fédéral ajoute que l'interdiction de pêcher demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La journaliste et écrivaine Rolande Allard-Lacerte, qui a collaboré au Devoir pendant 35 ans, est décédée le 18 mai dernier, à l'âge de 88 ans. Originaire de Saint-Évariste, Mme Allard Lacerte a fait ses débuts dans le journalisme à l'Écho de Frontenac de Lac-Mégantic, avant de travailler à la Tribune de Sherbrooke de 1950 à 1958 à titre de critique musicale, d'éditorialiste et de directrice des pages féminines. À partir de 1961, et ce jusqu'en 1995, elle a écrit pour Le Devoir, décrivant autant la politique québécoise, la société que la culture d'un œil ironique qui contrastait avec l'époque. Elle était avant tout humoriste et cela transparaissait dans tous ses écrits. Elle a même été vice-présidente du parti Rhinocéros en 1979, souligne son fils Pierre Lacerte. Le Rassemblement pour un pays souverain a tenu son traditionnel souper-gala à Pointe-aux-Trembles hier soir, lundi soir, à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes. Diane Lechasseur a accueilli les convives de l'événement, parmi lesquels on comptait le chef du Parti québécois Jean-François Lisée, la chef du Bloc québécois Martine Ouellette, ainsi que les anciens premiers ministres Bernard Landry et Pauline Marois. Le député péquiste Sylvain Gaudreau y a reçu le prix Louis-Joseph Papineau, soulignant son engagement pour la cause souverainiste. Plus tôt dans la journée, une centaine de personnes ont pris part à la marche organisée par le réseau Cap sur l'indépendance dans le centre-ville de Montréal. L'ancien maire de Londres a démissionné lundi du parti d'opposition travailliste emporté par les accusations d'antisémitisme qui pèsent sur lui. Ken Livingstone, 72 ans, avait été suspendu du Labour en avril 2016 pour avoir affirmé à la radio qu'Adolf Hitler voulait au départ envoyer les Juifs en Israël et soutenait le sionisme avant de devenir fou et de tuer 6 millions de Juifs. Cette polémique est devenue une distraction de la question centrale actuelle, à savoir comment remplacer le gouvernement conservateur qui supervise la baisse du niveau de vie et la spirale de la pauvreté, a-t-il expliqué dans un communiqué. Les accusations de complaisance avec les propos antisémites de certains de ses membres et responsables locaux sont considérées comme la cause du score moins bon que prévu par le Labour aux élections locales du 3 mai. Réagissant à la démission de son ami proche, M. Corbyn s'est dit triste, mais a estimé que c'était la bonne chose à faire. Vous écoutez le quotidien des quotidiens. Je vous souhaite un agréable mardi 22 mai 2018. Restez avec nous dans un petit moment. C'est la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal. Mais d'abord, une chanson choisie par Jean-François Laliberté.
Je n'ai pas cessé, je n'ai pas cessé de t'aimer, non. Je n'ai pas cessé de t'aimer, non.
Plus récent extrait de Vincent Vallière de son album Le Temps des Vivants, Je n'ai pas cessé.
À la une de la presse, Vanessa Jacques veut vaincre les préjugés autistes et finaliste à Miss Canada. En spectacle à Montréal, Depardieu admire les paroliers québécois. Hydro, forcé d'acheter à perte de l'énergie biomasse 130 millions pour de l'électricité dont on n'a pas besoin. Les chroniques de Mathieu Bocoté, l'inquiétude extrême-gauche et de Jonathan Trudeau, taille fer est une distraction. Une mise à jour dans le Journal de Montréal, le regroupement de femmes accusant Gilbert Rozon d'être un prédateur sexuel vient d'obtenir l'autorisation de, le poursuivre en action collective pour au moins 10 millions de dollars. Si le regroupement de femmes les courageuses n'était pas autorisé à intenter la présente action collective, il est fort probable que de très nombreuses victimes seraient privées de l'exercice de leurs droits en justice, conclut le juge Donald Bisson, dans un jugement de 40 pages rendu ce matin au Palais de justice de Montréal. L'ex-magnat de l'humour qui s'opposait à cette poursuite civile essuie ainsi un deuxième revers dans ce dossier, lui qui avait tenté d'éliminer les termes « viol » et « prédateur sexuel » de la demande d'action collective. Hydro perd des centaines de millions de dollars avec la biomasse. Hydro-Québec va perdre près de 130 millions cette année en achetant à fort prix l'énergie biomasse produite par les entreprises de pâte et papier pour ensuite la revendre à rabais. En 2018, la société d'État va payer 212 millions de dollars pour de l'électricité produite par des usines de cogénération à la biomasse à un taux d'environ 11 cents le kilowattheure pour la revendre à près de 4 cents le kilowattheure aux clients industriels, dont les mêmes producteurs de pâte et papier. Dans cet échange, la vache à lait des Québécois perd près de 130 millions pour cette seule année. C'est une décision politique qui n'a aucun sens énergétique et financier. Hydro-Québec s'est fait imposer ce genre d'achat et ils sont mal pris avec. Il faut mettre le blâme sur le gouvernement. C'est du mauvais développement régional, déplore Pierre-Olivier Pinault, spécialiste des politiques énergétiques et des marchés de l'électricité à HEC Montréal. Ils ont visé des élèves avec un fusil à air comprimé. Une mère de Joliette craint que l'année scolaire de son fils de 12 ans soit en péril depuis qu'il a été suspendu pour avoir visé des gens avec un fusil à air comprimé. Loin de banaliser ce geste, elle croit toutefois qu'il pourrait être puni de façon plus constructive. « Je ne pensais pas aux conséquences », avoue le garçon qui a rédigé une lettre d'excuse aux personnes qu'il a visées. « Une chose doit être claire, je ne banalise pas le geste de mon fils. C'est grave ce qu'il a fait. » Dès l'après-midi de l'événement, elle a reçu un coup de fil de l'établissement lui indiquant que son fils était suspendu pour 5 jours. Au début, j'étais pour la suspension, mais au terme de ces 5 jours, silence radio. L'école ne rappelant pas, elle décide de s'y rendre et apprend alors que Nicolas, prénom fictif, est suspendu pour une durée indéterminée. À plusieurs reprises, la famille a tenté de contacter l'école et la commissaire scolaire des Samaraises pour en savoir plus, mais en vain. De son côté, la commission scolaire a indiqué par courriel au journal que certains éléments de la version de la famille de Nicolas sont inexacts et incomplets sans préciser lesquels. Nicolas et sa mère devraient rencontrer des représentants de la commission scolaire aujourd'hui. La fin de l'accompagnement réjouit les motocyclistes. La décision de Québec de mettre fin à l'accompagnement obligatoire pour les apprentis conducteurs de motocyclettes, entrée en vigueur vendredi dernier, fait le bonheur des amateurs de moto de la province. La fin de cette contrainte a même encouragé certaines personnes à s'inscrire à des cours de moto. C'est notamment le cas de Michael Bouchard qui attendait que la loi change pour suivre ses cours. Avant, je n'avais personne dans mon entourage pour en faire, ça voulait dire un an avec la moto dans le garage sans pouvoir en faire. Maintenant, je vais pouvoir en faire dès cet été, a-t-il expliqué. Cette vision est partagée par d'autres apprentis motocyclistes. Je pense qu'on est quand même bien formé pour être sécuritaire sur les routes. Le changement de loi est aussi une bonne nouvelle pour les concessionnaires qui prédisent une augmentation des ventes de motos au cours des prochains mois. Le groupe de citoyens Les Pollués de Montréal-Trudeau s'est adressé directement à la ministre fédérale de l'Environnement et des Changements climatiques, Catherine McKenna, pour lui demander de mener une consultation publique sur le projet d'agrandissement de l'aéroport Montréal-Trudeau. Un projet d'une telle envergure doit passer le test de l'acceptabilité sociale et du bien fondé en fonction des impacts économiques, sociaux, environnementaux et de santé publique. A soutenu Pierre Lachapelle, président du groupe qui dénonce la pollution par le bruit causé par les avions qui survolent Montréal dans un communiqué diffusé dimanche. Le regroupement avait déjà formulé cette demande après l'annonce du projet de 2,5 milliards de dollars le 30 avril dernier. Toutefois, Aéroports de Montréal avait refusé d'y répondre. Les premiers travaux doivent débuter cet été avec l'aménagement de nouvelles voies de circulation au coût de 117 millions de dollars. Le groupe Les Pollués de Montréal-Trudeau a pour sa part vu sa demande d'action collective contre Aéroports de Montréal, NAV Canada et le ministère fédéral des Transports, autorisée par une juge de la Cour supérieure du Québec en avril dernier. À 76 ans, l'ancien candidat à la présidentielle américaine et sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé hier qu'il se représentait à la Chambre haute en novembre, promettant avec des mots très durs de maintenir sa farouche opposition au président républicain Donald Trump. « Si je suis réélu, vous pouvez être certain que je continuerai à être au Sénat le plus farouche opposant à l'extrémisme de droite de Trump et des dirigeants républicains », écrit le sénateur de l'État du Vermont sur Twitter en annonçant qu'il se présentait à sa réélection. Les États-Unis ont promis hier d'imposer à l'Iran les sanctions les plus fortes de l'histoire pour qu'il se plie à une liste de 12 exigences draconiennes en vue d'un nouvel accord beaucoup plus vaste après le retrait américain controversé du texte sur le nucléaire iranien. L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, en présentant la nouvelle stratégie après la décision fracassante annoncée le 8 mai par Donald Trump. « Qui êtes-vous pour décider pour l'Iran et le monde? L'époque de telles déclarations est révolue », a réagi le président iranien Hassan Rouhani. Et les bus chinois percent au Québec. Ces véhicules de 30 pieds de long répondent à des besoins non comblés par Novabus. Alors que le gouvernement préconise l'achat d'autobus hybrides et électriques, des sociétés de transport préfèrent commander des autobus au diesel construits en Chine. Les sociétés de transport du Saguenay, de Lévis et de Trois-Rivières vont ainsi investir plus de 7 millions de dollars pour acquérir 19 bus Vicinity de 30 pieds de longueur, soit environ 350 000 $ par véhicule. On va les avoir d'ici la fin de l'année, affirme Jean-Luc Roberge, directeur général de la STS, les sociétés de transport du Saguenay.
D'entendre André Papanicolaou avec la pièce New Moon.
Les journaux régionaux, les centaines de femmes de l'Outaouais qui accouchent en Ontario chaque année ont davantage de paperasses à remplir que celles qui donnent naissance en sol québécois si elles veulent recevoir des paiements de soutien aux enfants, c'est Justine Mercier dans Le Droit. Dans une décision rendue récemment, le tribunal administratif du Québec se penche sur le cas d'une mère ayant été suivie dans une clinique d'Ottawa. traitant les cas de grossesse à haut risque. La naissance de l'enfant en 2010 a été déclarée au directeur de l'État civil du Québec. Une carte soleil a aussi été demandée à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais l'information ne s'est pas rendue à Retraite Québec, responsable de verser les allocations de soutien aux enfants. La décision de la juge administrative Lucie Lefrançois explique que ce n'est qu'en 2016, lors d'un rendez-vous pour un suivi auprès du CLSC en Outaouais, après la naissance de son deuxième enfant, que la mère obtient un dépliant de Retraite Québec sur les naissances hors province. La mère effectue donc les démarches auprès de Retraite Québec dans le but de recevoir des versements de soutien aux enfants pour son deuxième enfant. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu des documents de Retraite Québec qu'elle a réalisé qu'elle ne recevait pas ce paiement de soutien aux enfants pour son premier enfant, lit-on dans la décision. La requérante dit qu'il est impossible pour elle d'accoucher au Québec pour des raisons médicales sérieuses. Le dépliant de Retraite Québec précise que pour chaque enfant né hors Québec, les parents doivent faire une demande en ligne ou sur papier pour obtenir le paiement de soutien aux enfants. Il est aussi souligné que ce paiement peut être versé rétroactivement pour une période de 11 mois précédant la date de réception de la demande. Dans le dossier de la mère qui réclamait des versements rétroactifs pour une plus longue période, Retraite Québec faisait valoir que l'ignorance de la loi n'est pas un motif accepté pour une prorogation. Le tribunal considère pour sa part qu'il ne peut s'agir du seul motif de refus. La décision souligne qu'il peut y avoir confusion pour une personne qui accouche dans une autre province, mais qui réside toujours au Québec. Si la requérante avait accouché au Québec, Retraite Québec aurait été informée par le directeur de l'État civil de la naissance de l'enfant, écrit la juge administrative. Son premier enfant ayant dû être hospitalisé pendant plusieurs semaines, la mère n'a pas été transférée dans un CLSC du Québec pour un suivi, afin qu'elle obtienne l'information nécessaire pour la demande de soutien aux enfants. La juge administrative conclut donc que la mère n'avait pas l'obligation de faire des vérifications puisqu'elle avait fait toutes les démarches auprès du directeur de l'État civil et des autorités gouvernementales. En raison de ces circonstances particulières, le tribunal conclut que la décision de Retraite Québec était déraisonnable et fixe le début du paiement de soutien aux enfants au mois suivant la naissance du premier enfant. Dans la tribune, Simon Roberge, les Expos de Sherbrooke sont passés tout près de remporter leur match d'ouverture locale face aux Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche au stade Amédée-Roys. Auteur de 3 coups sûrs durant le match, Douglas Taureau n'a pu en frapper un quatrième lorsque les buts étaient remplis en fin de 7e manche, forçant ainsi les Expos à s'incliner par la marque de 8-7. La défaite fait mal puisque les Sherbrookeois étaient en contrôle 5-2 après 4 manches de jeu. Dans le soleil, Joanne Fournier, Matane accueille sa première famille de réfugiés syriens. Il y avait des tirs de roquettes sans arrêt. On avait peur. Une nuit, on a entendu un bombardement. On ne savait pas où c'était tombé. On entendait des gens rentrer dans la maison. Notre fils ne dormait plus la nuit. Ce n'était plus vivable. C'était la terreur. Tel est le récit poignant de Hussam Atiya et de Micheline Nassar. Avec leur fils Wadi, ils ont fui la Syrie. C'est à Matane qu'ils ont enfin pu se réfugier et où ils pourront refaire leur vie loin du chaos engendré par la guerre. Leur vie à Homs, parfois appelée la capitale de la Révolution par les opposants au régime, était un véritable enfer. Il y a 2 ans, les membres de la famille Nassar Atiya ont donc décidé de migrer vers le Liban, le pays d'origine de la mère de Micheline. S'ils ont trouvé la paix à Jdita, ils y ont aussi rencontré la misère. C'était difficile de trouver du travail et ce n'était pas payant, se souvient Hussam, dont les propos en arabe sont traduits par Rain Ajemoussa, une Libanaise domiciliée à Matane. On devait payer une maison et c'était très cher. Au Liban, ce n'était pas stable, ajoute sa femme Micheline. Pendant sa vie au Liban, le couple rêvait d'immigrer au Canada. Simultanément, le comité de parrainage Siri Matani se formait. En 2 ans et demi, le comité a amassé 43 000 $. Le lien entre la famille Nassar Atiya a pu être tissé grâce à un père jésuite de Montréal pour qui la tante de Mme Nassar travaille. Les démarches n'ont pas été simples. Je trouvais ça long, admet Mme Nassar. On se décourageait parfois, mais chaque fois qu'on parlait par Skype avec les gens du comité de parrainage, on retrouvait de l'énergie. Hussam, Micheline et Wadi sont débarqués à Montréal le 27 avril. Le lendemain, ils sont arrivés à Matane. Le comité de parrainage leur fournit une maison. Une dame qui quittait la région leur a fait don de tous ses meubles, tandis que les uns et les autres leur ont offert une télé, des vêtements et tout le matériel nécessaire à la vie quotidienne, y compris des jouets pour le garçon de 8 ans. « On est tellement reconnaissant », répète souvent la femme de 36 ans. « On est tellement bien reçu. On se sent en sécurité. On sent l'amour de tout le monde. » Wadi est en 2e année à l'école Victor Côté de Matane. Son enseignante est tellement merveilleuse et les élèves sont gentils avec lui, souligne sa mère. Le garçon a appris le français au Liban. Et pour atteindre le vrai bonheur, il ne reste plus maintenant qu'à Hussam et Micheline à se trouver un emploi. Le statut patrimonial retiré à une maison de 135 ans, c'est dans le quotidien Mélissa Gagnon. Une propriété vieille de 135 ans située au 353 rue Montcalm à Chicoutimi pourrait bientôt tomber sous le pic des démolisseurs pour paver la voie à l'aménagement d'un stationnement. L'ancienne maison riveraine, où un bureau de notaire a eu pignon sur rue pendant une 15aine d'années, est désormais la propriété des immeubles Perron. Ce dossier a fait l'objet de discussions au Comité consultatif d'urbanisme, CCU, de l'arrondissement de Chicoutimi en mai 2017, à la suite d'une demande formulée par la propriétaire de l'époque, Marilyn Riverain. Elle souhaitait obtenir une autorisation pour la démolition de la résidence située dans un secteur protégé par un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Un PIIA est un outil d'urbanisme qui peut être utilisé dans certains secteurs pour en protéger le caractère historique ou patrimonial ou pour s'assurer de l'intégration harmonieuse des nouvelles constructions. Des plans pour les futurs aménagements ont été déposés avec la demande, adoptée sur fond de dissension, alors que 4 membres du CCU se sont prononcés pour et 2 autres se sont abstenus de voter. Chez les immeubles Perron, on n'a pas souhaité commenter ce dossier ni statuer sur l'avenir de l'immeuble. Jean-Guy Côté, le notaire qui a occupé les lieux pendant 15 ans, s'est opposé à la démolition projetée du bâtiment. L'an dernier, une maison qu'il estime être riche en histoire. Dans la foulée de la vente de la résidence, il a dû déménager ses pénates dans de nouveaux locaux. Au cours d'un bref entretien téléphonique, il a déploré la décision de Saguenay d'autoriser la démolition d'une autre résidence aux attributs patrimoniaux. Dans le Nouvelliste, Audrey Tremblay, partir sur une note parfaite. C'est sous une mer d'applaudissements et de bravo que maestro Jacques Lacombe a conclu son dernier concert avec l'OSTR, celui qui va quitter l'orchestre Trifluvien pour la prochaine année, a ravi la foule avec l'opéra Faust de Gounod. C'était grandiose, c'est vraiment la production la plus complexe qu'on a faite à l'OSTR. C'est certain que j'ai un petit pincement au cœur de quitter l'orchestre avec laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans, mais mon cœur reste ici. J'ai hâte de voir comment va se passer la prochaine saison. Mais je pense que c'était une finale en beauté, a lancé Jacques Lacombe quelques minutes après le concert. Dans la salle, visiblement, le travail des artistes invités a impressionné, mais les sentiments divergent quant au départ de maestro Jacques Lacombe. Certains estiment que les chaussures seront grandes à chausser, tandis que d'autres y voient une occasion de découvrir autre chose. Parfois, il faut du changement pour réellement apprécier ce que l'on a. C'était une soirée impeccable qui restera gravée dans notre mémoire jusqu'à son retour. En attendant, il faut savoir apprécier la différence et la nouveauté, a lancé une habituée des concerts de l'OSTR. Rappelons qu'au cours de la prochaine année, 6 chefs d'orchestre invités se succéderont au podium pour remplacer Jacques Lacombe, soit Dina Gilbert, Adam Johnson, David Lefebvre, Daniel Missick, Raymond Perrin et Steven Smith. Il faut dire que le moment était chargé en émotions pour maestro Jacques Lacombe, mais également pour toute l'équipe de l'OSTR. Comme c'était la dernière production avant le départ de Jacques pour son année sabbatique, alors c'était une soirée au caractère particulier. Rappelons qu'à peine 24 heures avant de diriger son dernier concert avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, le chef Jacques Lacombe a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur des mains du lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon. La 40e saison de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières s'est terminée ainsi samedi soir et on a assuré aux gens dans la salle le retour de Jacques Lacombe dans un an. À venir après une chanson choisie non pas par Jean-François, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Jean-François, je sais qu'il y avait un Jean-François un petit peu plus tôt dans l'émission Les Voix de service. Non, c'est Jean-Sébastien Laliberté, le seul et unique. Eh bien, il y aura les actualités culturelles. Restez avec nous.
You think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Le grand classique de Pink Floyd, Wish You Were Here, c'était une demande spéciale, une demande de Yannick, à qui on souhaite une très bonne journée.
Alors, Yannick a du goût, hein, du Pink Floyd. C'est rare qu'on écoute ça au Canal M et c'est très bon. Maintenant, parlons d'autre chose qui est tout aussi historique, le Stitch Show. Je sais que mon collègue Daniel Lachance en parlera en lisant l'article de la presse d'aujourd'hui. Et moi, j'ai choisi de vous lire le texte signé Sylvain Cormier. Le Stitch Show, point de bascule, retour sur les 50 ans de ce spectacle québécois mythique et révolutionnaire. Réunis au Katsu, Mouffe, Yvon Deschamps, Robert Charlebois et Louise Forestier évoquant leur happening théâtral psychédélique et mythique. Choc des souvenirs variables, folie intacte. C'était quand, finalement, la première de l'Hostie Show? Le 21 mai 1968? Le 26? Le 28? Depuis une semaine, la réponse varie selon les sources, les archives et les souvenirs. Les trois dates tournent et tournent comme dans un manège fou. C'est le moment ou jamais de trancher puisqu'ils sont là. Mouffe, Yvon Deschamps, Louise Forestier, Robert Charlebois. Les quatre de l'Hostie Show. Réunis au Katsu pour parler aux médias écrits à l'occasion des 50 ans de l'événement, là où le mythique et révolutionnaire spectacle fut d'abord présenté. Évidemment, les protagonistes ne sont pas trop sûrs non plus. Louise Forestier décrit le flou artistique d'une discussion préalable entre eux. La première, le 31. Ben non, le 23. Au moins, s'entend-on sur le mois, l'année, le siècle. Mouffe a une proposition qui tient la route. J'ai compris la différence des dates. On est entré au théâtre le 21 pour répéter et monter, ça a pris l'affiche le 28. Elle relativise sa déduction. J'avais dit que l'échafaudage était noir, il était blanc. Robert en pousse une à la Charlebois. T'as la mémoire des dates, t'as pas la mémoire des couleurs. Ça rit fort. Les éclats de Louise percent le plafond. Qui n'est pas le plafond d'époque? Le grillage de fer forgé à l'entrée, oui. Le mur de pierre, oui. Les fauteuils antiques de cuir rouge et bois et beau bois patiné aussi. Yvon rappelle qu'ils viennent de lui, qu'il les avait prêtés au Katsu à long terme. Ça fait drôle de les voir ensemble, les quatre, dans ces fauteuils. La disposition des deux filles et des deux gars de l'Hostie Show, la parité en 1968, est parlante. Mouffe, Yvon et Louis se sont collés serrés, alors que Robert occupe le plus grand fauteuil à lui tout seul. Comme on dit, il emmène large. Il prend aussi le plancher. À lui, la narration principale, comprend-on. Comment ça se fait que nous nous sommes retrouvés les quatre ici il y a 50 ans? Il y a un mystère. Je dis merci Michel Tremblay parce que les belles-sœurs étaient ou pas prêtes ou trop chères. Yvon, qui avait été l'un des fondateurs du Katsu, que dirigea Paul Buissonneau, me disait « On a un trou de 3 semaines. As-tu des chums qui sont capables de monter quelque chose rapidement? » Yvon, tout doucement, complète. « C'est arrivé pour une simple raison. J'ai fait faillite en février 1968 avec les restaurants et la boîte à chansons avec Clémence Desrochers. Les derniers qui ont joué à la boîte à Clémence, c'est Mouffe avec Robert et Jean-Guy Moreau. La revue Terre des Bombes. Je me suis retrouvée ici au Katsu avec Paul. Robert avait été en Californie et nous jouait ses nouvelles chansons. Robert l'interrompt. C'est une question de synchronicité et c'est la loi des 10 000 heures. Règle selon laquelle il faut 10 000 heures pour atteindre l'excellence selon le dictionnaire. Yvon rigole. Vas-y Robert, qui continue. Quand les 10 000 heures sont passées, faut être prêt. On avait eu nos années d'école nationale, de théâtre, t'avais accompagné l'éveillé, t'avais eu des boîtes à chansons. Louise faisait ses shows. Louise, nommée, s'insère dans le discours. Oui, on était prêts. On savait c'était quoi une scène. Personne n'était prêt à l'expérience de l'Hostie Show, cependant. Ni eux, ni le public, ni Buissonneau. Avec le quatuor du jazz libre du Québec dans l'affaire et les chansons psychédéliques de Charlebois et Forestier, California, From Santa to America, CPR Blues, La marche du président, texte de Vigneault, et l'hymne en devenir Lindbergh sans H, texte Péloquin, ça ne pouvait pas être ordinaire. Pourtant, visuellement, ça n'allait pas être un light show comme au Fillmore de San Francisco. Et personne ne s'habillerait comme Jimi Hendrix au Festival Pop de Monterey, flambant et multicolore l'année d'avant. Ça se présentait comme une revue musicale, à la manière des autres revues que Mouffe et Robert avaient montées avec leur cher et regretté Jean-Guy Moreau. Yéyé versus Chansonnier dès 1965, Terre des Bommes en 1967. De fait, les quatre de l'Hosticho se montrèrent en costume blanc fort sage avec leur version certes extrême de l'habituelle mise en scène des revues, chansons et scénettes humoristiques. Avec les costumes, on devait avoir des parapluies et des chorégraphies, mais nous autres, on ne voulait pas faire une parodie des parapluies de Sherbrooke. C'est ce qui fondamentalement distingue l'Hosticho qui détermine le point de bascule, l'avant et l'après pour toute une génération. L'habillage a gardé l'esprit des revues, mais la satire a pris le bord. Fini la distance ironique. Révolution dans le contenu plus que dans le contenant, mais révolution vraiment. L'événement, là, c'était nous autres, s'exclame Louise. Chanson en joual exacerbée. Musique psychédélique, pas loin de la musique contemporaine. Le jazz libre voulait « blow away free » comme « Archie Sheep » évoque Robert. Shep ou Sheep, S-C-S-H-E-P-P. Premier véritable monologue d'Yvon pour rire jaune à propos des ouvriers exploités et d'un peuple qui a un mouton comme symbole, extrait du discours « I have a dream » de Martin Luther King, assassiné un mois et demi plus tôt, détonation de fusil, finale apocalyptique bien nommée « La fin du monde ». Le tout composant une sorte d'histoire à la Alice Restaurant d'Arlo Guthrie, précise Mouffe. Les costumes blancs étaient des pages blanches, à colorer. La réaction du public fut assez violemment polarisée. La salle était pleine de spectateurs de théâtre au départ. Robert, fièrement, rappelle que Buissonneau essayait de retenir les gens qui voulaient partir à l'entracte parce qu'on jouait trop fort. Yvon sourit. Ça pouvait pas être si fort que ça, on avait un 65 watts. Robert a néanmoins raison. Pas si fort en volume, c'était tonitruant d'audace et de bruit jamais entendu chez nous hors du New Penelope et de lieux d'initiés. Ceux qui sont restés sont revenus le lendemain, disent les quatre à l'unisson. Rare unanimité. En septembre, l'Hosticho King Size grossissait l'affaire à la Comédie canadienne. Mais l'Hosticho meurt à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts en janvier 1969, avec un corps de majorette qui traversait la scène en jouant le Haut-Canada, ce qui constituait l'apothéose. L'album Robert Charlebois, Louise Forestier est en magasin. La chanson Lindbergh en tête du palmarès populaire et rock souterrain. Yvon Deschamps va lancer Les Unions Costadone sur disque. Jean-Pierre Ferland pleure à la sortie du spectacle. La gestation de Jaune vient de commencer. Rien ne sera plus jamais pareil.
Jet Whisper, Jet Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux Esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis
rendu. Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon pour la tenue dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors j'ai reparti sur le Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je suis rendu. Ma Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi. À propos, et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je ne sais plus où je suis rendu. J'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Elle est là que j'avais ramassé sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
A-t-on besoin encore de présenter ce monument de la chanson? Lindbergh, Robert Charlebois et Louise Forestier, retour en 1968. C'était en lien avec l'article qu'Hélène nous a lu précédemment sur l'hostie show.
Texte de Laure Varidel dans Opinion, la nature nous habite, Journée internationale de la biodiversité. En ville, il est particulièrement facile d'oublier à quel point nous sommes dépendants de la biodiversité. La purification de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, de même que l'équilibre des sols qui nous nourrissent, sont le résultat d'interactions multiples et complexes entre des arbres, des plantes, des insectes, des animaux, des champignons, des micro-organismes et des bactéries de toutes les sortes. Où que nous vivions, nous sommes l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons. La nature nous habite autant que nous l'habitons et la transformons. Or, cette nature qui permet notre présence dans l'univers est aujourd'hui menacée. Nos modes de vie et la multiplication des humains sur Terre ont déclenché une vague d'extinction et le déclin d'espèces comparables en termes de taux et d'ampleur aux 5 précédentes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. La situation est telle que les scientifiques n'hésitent plus à parler de ce déclin comme de la sixième crise d'extinction des espèces. La dernière remonte à la disparition des dinosaures, rien de moins. S'il est clairement démontré que les humains sont les principaux responsables de la perte de biodiversité, ils sont aussi au cœur des changements nécessaires à un revirement de situation. Notre espèce sait voir venir le danger et a l'intelligence nécessaire pour modifier ses comportements. À d'autres moments de l'histoire, nous avons été en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient pour éviter une guerre nucléaire, freiner l'augmentation du trou dans la couche d'ozone et réduire certaines pollutions industrielles, par exemple. Nous sommes aujourd'hui appelés à faire des choix décisifs pour protéger la biodiversité autant que pour prévenir l'aggravation des changements climatiques. Chacun à notre échelle, nous pouvons faire des gestes individuels et collectifs qui permettent de protéger des milieux naturels, réduire la pollution, créer des espaces verts et ainsi améliorer notre bien-être à tous. La mobilisation citoyenne est nécessaire pour faire bouger les gouvernements et les entreprises du local à l'international. Au sein de toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées ou non gouvernementales, il y a des citoyens qui chaque jour prennent des décisions qui changent le monde. Rarement nous en mesurons la portée qui est souvent invisible à nos yeux. C'est pourtant à force de tous ces choix individuels et collectifs que la société et l'environnement se transforment. Pour mieux saisir toutes les occasions que nous avons d'agir pour protéger la biodiversité, Espace pour la vie lance aujourd'hui la programmation des rencontres humain-nature dont j'ai l'honneur d'être la porte-parole. Au programme, une panoplie d'expériences inusitées qui engagent la réflexion et la discussion sur notre relation avec la nature. En cette Journée internationale de la biodiversité, je vous invite à faire au moins un geste pour protéger la diversité de la vie sur Terre et pourquoi pas mettre une rencontre humaine, une rencontre humain-nature à votre agenda. Sachant que l'engagement contribue au bonheur, vous ne le regretterez pas. Parlez-vous le Netflix? C'est la chronique de Nathalie Petrovski. Vous êtes créateur, scénariste professionnel, vous avez des histoires à raconter, des histoires folles, trépidantes, passionnantes et universelles? Si c'est le cas, c'est votre jour de chance, mais c'est aussi le last call pour soumettre vos projets à Netflix. La vie pour les journées de présentation Netflix à Montréal, lancées il y a quelques semaines, se termine aujourd'hui. Dès demain, d'intrépides lecteurs de Netflix établis à Los Gatos, en Californie, vont trier les projets, en rejeter plusieurs et, avec un peu de chance, en choisir autant. Tout cela en prévision d'une grande rencontre qui se tiendra dans un hôtel à Montréal les 30 et 31 mai. Tout cela surtout en vertu d'une entente où Netflix a promis au gouvernement fédéral d'investir 25 millions de beaux dollars pour partir à la découverte du secteur culturel québécois afin d'éventuellement produire des films et des séries en français. Enfin, c'est ce qu'on espère. Bref, si vous êtes un créateur dont la tête bourdonne d'histoires passionnantes, Netflix vous attend à bras ouverts à une nuance près, vous auriez intérêt à parler le Netflix, une langue qui se déploie essentiellement en anglais. Voilà toute l'ironie de ces journées de présentation Netflix à Montréal. En principe, elles ont été organisées pour que les dépisteurs de Netflix puissent apprendre à mieux connaître les créateurs québécois d'expression française. En pratique, si ces créateurs ne parlent pas l'anglais, ou si leur « pitch » entre guillemets de 10 ou 20 pages n'ont pas été rédigés en anglais, ils auront toutes les difficultés du monde à se faire comprendre et à vendre leurs idées à Netflix. Les 30 et 31 mai, il y aura sur place à Montréal environ une dizaine de représentants de Netflix, la plupart unilingues anglophones assistés par un seul traducteur. Autant dire que ce dernier aura du pain sur la planche. Ce n'est pas tout. Avant de soumettre leur idée, leur concept ou leur projet, les créateurs doivent signer une décharge de 12 clauses visant à protéger Netflix d'éventuelles poursuites. Or, la décharge, dont le jargon juridique est compliqué à souhait, est entièrement rédigée en anglais. La version française n'existe pas. Tant pis pour les créateurs unilingues francophones. Ils devront passer leur tour ou se précipiter à l'Institut linguistique et apprendre à dire 254-6011 dans la langue de Reed Hastings, PDG de la multinationale. Les producteurs québécois, pour leur part, ne se plaignent pas. Hélène Messier, PDG de leur association, la QPM, m'a affirmé qu'elle n'était absolument pas choquée par l'utilisation de l'anglais dans la documentation transmise par Netflix. C'est un document standard, préliminaire, le même genre que l'on signe avec les Allemands ou les Chinois. Ça ne nous pose pas de problème. Fort bien, mais ce qui va pour les producteurs qui ont les moyens de faire traduire ce genre de décharge ne va pas nécessairement pour un créateur qui se présente seul à l'hôtel Netflix et qui, par ailleurs, a été fortement encouragé à le faire par une directive émanant des bureaux même de Netflix. S'il baragouine l'anglais et que l'unique traducteur embauché pour la journée est occupé ailleurs, la communication risque de se muer en dialogue de sourds. Dernière source d'irritation, en principe, Netflix finance le développement de talents, mais pas le développement de contenu. Ainsi, Netflix s'est associé à l'Institut national de l'image et du son et à l'Académie du cinéma canadien pour offrir des formations aux femmes et aux Autochtones qui aspirent à la réalisation en film ou en télé. Pour le développement de contenu, c'est une autre histoire. Contrairement aux institutions d'ici, comme la SODEC, Téléfilm Canada ou Radio-Canada, qui financent l'écriture de séries ou de films, Netflix achète des scénarios déjà développés et écrits. Comment vont faire les auteurs et scénaristes qui n'auront pas pu écrire au-delà de 3 pages? Mystère. Mais ne soyons pas mesquins. Hormis l'irritant linguistique, ces journées Netflix à Montréal auront certains avantages indéniables. Elles vont, entre autres, permettre à certains de nos beaux restes de table d'enfin trouver preneur. Je parle de ces dizaines de séries télé et de films de fiction écrits dans la sueur, le sang et l'espoir, mais dont les scénarios dorment pour l'éternité sur les tablettes. Netflix sera peut-être leur salut. Bien qu'on ignore l'ampleur exacte de son investissement au Québec, Netflix devient un nouvel acteur et un nouveau diffuseur qui s'installe à demeure chez nous. Et cela semble faire l'affaire de bien des producteurs d'ici qui ont développé pendant des mois ou des années de superbes projets qui n'ont jamais vu le jour, faute de moyens ou d'intérêt. Grâce à Netflix, leurs projets vont peut-être avoir une deuxième chance, comme dans la pub de Renaissance. Désormais, si Radio-Canada ou TVA laissent tomber une série télé ou si un scénario de film est refusé à la SODEC ou à Téléfilm, leurs auteurs qui auront trimé dessus, en pure perte, pourront se tourner vers Netflix. Et si par miracle leur projet est choisi, ils pourront chanter dans la rue en chantant « Quand je vends Netflix, mes projets ont une deuxième vie et moi, j'ai une deuxième chance ». Rien que pour cela, on a envie de dire « Thank you, Netflix ». Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester là pour la suite, c'est-à-dire pas la suite, mais une deuxième émission que j'anime, Les Paractualités. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.